Il est 22h53 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Mathieu. Mais avant d'accueillir Mathieu, j'aimerais revenir sur le témoignage de Dominique, qui était un témoignage assez touchant en fait, puisque nous avons dans ce témoignage eu cette notion du temps qui passe avec cet amour unique, cet amour, ce seul amour de notre vie. Et c'est vrai que cet amour, il se transforme et qu'il faut toujours penser à l'entretenir, toujours penser à le renouveler et qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent le renouveler, cet amour, l'entretenir. Et Dominique a raison d'évoquer les caresses, la tendresse. On accueille Mathieu maintenant, 39-21. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Mathieu et quel âge avez-vous ?
Alors j'ai 24 ans, je suis dans le Finistère.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Mathieu ?
Donc si ce soir je souhaite témoigner, c'est pour parler de la maladie alcoolique.
Oui.
Non pas je l'ai été, mais en fait j'ai subi cela avec mon père.
Oui.
Et je trouve qu'on ne parle pas assez de l'entourage, car ils subissent énormément, quoi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours.
Oui.
Donc, en fait, j'ai pris conscience à l'âge de mes 7-8 ans que mon père avait un problème avec l'alcool. En fait, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était encore la maladie alcoolique.
Mmh.
Mais en fait, il rentrait, par exemple, tard le soir. Enfin, il n'y avait plus beaucoup de lien. Et il y avait, en fait, une forte odeur. Et donc, vers mes 9 ans, je regardais tranquillement la télé et j'entendais un bruit dans le couloir de ma maison. Et en fait, j'ai entendu ma mère crier au secours parce qu'en fait, mon père allait lever la main sur ma mère. Donc, ma mère a dit, je vais appeler les gendarmes. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait le 17.
Oui.
Et en même temps, j'ai trouvé un balai. Et donc, pour pas qu'il fasse du mal à ma mère, avec le balai, je l'ai repoussé. Et à ce moment-là, du coup, ma mère a appelé les gendarmes. Donc ensuite, en fait, les gendarmes sont venus. Et à ce moment-là, il a dit aux gendarmes, « Mon fils m'a frappé. » Donc les gendarmes, ils comprenaient très bien, en fait, la situation, quoi. Donc ils ont isolé mon père, ils ont discuté. Et donc ma mère n'a pas décidé de porter plainte. Parce qu'en fait, elle voulait laisser une seconde chance, même s'il a déjà fait d'autres cures et post-cures auparavant, quoi.
Oui, oui.
Et ce soir-là, il m'a dit une phrase, où là, je m'en souviendrai toute ma vie, il m'a dit « Toi, t'es 18 ans, je te taperai, je te coincerai la gueule au coin d'une rue. »
Oh là là.
Donc j'avais 9 ans. Et donc cette phrase, elle m'a, au fur et à mesure des années, elle m'a un petit peu travaillé, du
bien
coup,
sûr,
évidemment.
Bien sûr, je comprends.
Et à 10 ans, je mangeais tranquillement dans le salon avec ma mère. Et là, le téléphone fixe sonne. Donc, ma mère décroche. Et c'était les gendarmes. Et en fait, ils ont retrouvé mon père alcoolisé en voiture, dans la commune où j'habitais auparavant, avec plus de 2,90 g dans le sang. Donc, évidemment, c'est le dégrisement, etc. Donc, à partir de ce moment-là, ma mère a entamé une procédure de divorce. Donc, ce qui est tout à fait logique, évidemment, quoi. Et lorsque j'ai posé le pied dans la nouvelle maison avec ma mère, pour moi, c'était une nouvelle vie, en fait. Par exemple, j'allais plus vers les autres, et puis je me sentais plus libre. Parce qu'en fait, à la maison, je pouvais inviter personne. Parce que je me disais dans quel état avait de mon père, en fait.
Vous aviez peur, honte. Peur d'avoir honte.
C'est, voilà, peur et honte, voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, comme il y a eu un jugement, évidemment, du coup, je devais établir des liens avec mon père. Donc, j'étais allé dans un centre, en fait. C'est un centre où, en fait, je crois que c'était des éducateurs qui, entre guillemets, essayent de rétablir le lien avec la famille, quoi.
La médiation familiale, non ?
Voilà, je crois que c'est ça, un petit peu, oui. Et donc, moi, je ne voulais pas trop aller. Donc, ma mère m'a dit, si, va quand même, ça va peut-être te faire du bien. Donc, je suis allé. Donc, j'étais avec l'éducateur et mon père. Et je n'ai pas décroché un mot de l'échange. Donc, l'éducateur a dit à ma mère, on va tenter deuxième fois. Et la deuxième fois, ça a été le... En fait, comme j'étais de nature stressée, je me suis enfermé dans les toilettes et puis je me forçais à vomir parce que j'avais peur. Je ne voulais pas du tout décrocher un mot. Donc là, l'éducateur, évidemment, il a compris que ça ne servait à rien de me forcer, en fait, à rétablir le lien, quoi.
Oui, oui.
Et donc, de mes 11 ans à mes 18 ans, j'ai plus eu de nouvelles, que ce soit avec mon père ou sa famille. Et un matin, j'allais travailler, en fait, un travail étudiant. Et donc, je lis sur mon téléphone un article de presse qui me dit un corps sans vie retrouvé sur les bords de l'Odé.
Alors, Mathieu, avant que vous continuiez votre histoire, on va marquer une pause et puis vous allez me raconter la suite juste après, d'accord ?
D'accord, très bien.
Pour l'instant, nous sommes avec Mathieu qui évoque l'alcoolisme de son père, un alcoolisme qui a tendu les rapports entre vous et votre père, Mathieu.
Oui.
Et vous évoquez un article de presse qui relate qu'on a retrouvé un corps quelque part. Votre père avait disparu depuis combien de temps ?
Ben en fait, cet article, je l'ai vu dans l'article de presse, mais je ne savais pas que c'était mon père au début, en fait.
Mais oui, mais je me suis douté que c'était votre père, moi. Mais il n'était pas rentré depuis combien de temps à la maison ?
Ben à ce moment-là, mes parents étaient déjà séparés.
D'accord.
Oui, d'accord. Parce qu'en fait, j'avais 18 ans à ce moment-là. Oui. Et donc, mes parents se sont séparés, j'avais 11 ans. Et donc, à mes 11 ans, ben, j'ai vécu qu'avec ma mère, quoi. Parce que je voulais plus voir mon père.
Vous n'aviez plus de nouvelles de votre père quotidiennement, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et du coup, je me lève et tout, donc il était vers 6h du matin. Et ma mère me dit, Mathieu, viens voir, s'il te plaît. Et je trouvais bizarre parce que d'habitude, je faisais ma petite routine et puis voilà, quoi. Et là, elle me dit, ton père est mort hier soir. Je dis, mais du coup, il y a eu un blanc de 30 secondes, quoi. Mais je dis, mais comment, enfin ? Il était retrouvé dans l'OD. Et là, du coup, je dis, c'est ça l'article, alors, parce qu'il y a un article dans le journal. Et donc, là, je ressentais de la tristesse et à la fois de la colère, parce que je me suis dit, ça va. Un jour, je sais qu'il allait mourir de l'alcool. Oui. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il avait bu. Mais pour moi, j'étais persuadé, quoi. Donc, je vais au travail quand même. Et donc, c'était un samedi. Et le samedi matin, le téléphone fixe sonne. Donc, c'était la grand-mère de mon père. Et donc, c'est pareil, j'avais plus de nouvelles avec eux. Enfin, moi, j'avais décidé aussi de couper les ponts. Et elle me dit, viendras-tu à l'enterrement ? J'ai dit, je ne pense pas. Parce que voilà, il m'a fait du mal, à moi et à ma mère. Et voilà, enfin, moi, je ne voulais pas.
Oui.
Et là, elle me dit, de toute façon, s'il a bu, c'est à cause de ta mère et de toi.
D'accord.
Donc,
N'importe quoi.
Donc, déjà, ça m'a encore plus envie d'aller à l'enterrement. Et comme, en fait, c'était un accident sur un décès sur voie publique, du coup, une enquête était ouverte. Du coup, je suis parti le lundi au commissariat, du coup, pour être convoqué, pour que le policier m'explique comment les faits se sont passés. Et donc, en fait, il a fait un accident de vélo, il est tombé dans l'OD. Et ma première question que j'ai demandé au policier, est-ce qu'il avait bu ? Il m'a dit, oui, il a bu, mais je vous dirai pas le taux exact. Donc, suite à ça, je suis pas allé à son enterrement. Ça m'a encore confronté plus dans mon choix. Et du coup, quand j'étais au collège, j'ai perdu aussi deux bons copains. Parce qu'en fait, ils me demandaient, qu'est-ce qui faisait ton père ? J'ai dit les gendarmes. Parce qu'en fait, quand j'ai vu les gendarmes à la maison,
oui.
Je pense que ça m'a créé du coup je me suis inventé un père fictif, en fait, un père modèle. Quelqu'un qui est proche de son enfant, qui montre son attention, son amour. Donc, évidemment, ils ont compris au fur du temps que c'était pas vrai, quoi. Et du coup, je me sentais différent, pas comme les autres. Du coup, j'ai eu certaines moqueries, voilà, enfin. Et du coup, c'est triste à dire, mais quand j'ai appris son décès, moi, ça m'a fait un soulagement, quoi. Je me dis, il fera plus de mal aux autres et plus à lui-même, quoi. Voilà, c'est l'alcool, comme on dit, ça fait beaucoup de dégâts, quoi.
Oui, là, c'était fini, définitivement.
Voilà, voilà. Donc là, déjà, pour moi, c'était une autre étape dans ma vie qui m'a... ça m'a beaucoup aussi soulagé.
Oui.
Et à 21 ans, j'ai dit à ma mère, yo, j'ai envie d'écrire mon enfance. Donc en fait, ça a commencé par. J'ai commencé par écrire des mots, des phrases. Et donc ensuite, j'ai stoppé pendant 2-3 ans. Et l'année dernière, j'ai vraiment J'ai repensé à tout ça et j'ai vraiment tout finalisé. Et du coup, ben, j'ai décidé d'écrire un livre.
D'accord.
Donc, non, aussi pour moi, pour que c'est aussi une sorte de thérapie, de libération, pour que je me libère, en fait, pas de ce poids que j'avais en moi.
Oui.
Et aussi, ça peut permettre aussi d'aider les autres, en fait, l'entourage qui ont vécu comme moi, qui sont en train de le vivre, ou les personnes qui sont dépendantes à l'alcool, quoi. Parce que, enfin, voilà, la maladie alcoolique, tant qu'on n'a pas ce déclic et cette prise de conscience, c'est très compliqué pour s'en sortir, en fait. Parce
qu'on, Vous avez raison.
Et du coup, voilà, bah, ce livre a été une partie de ma reconstruction parce que je me sentais beaucoup plus libéré. Et c'est tout bête parce que, par exemple, lorsqu'il y avait des soirées ou voilà, des choses comme ça, j'avais plus honte de dire aux gens que je n'aimais pas l'alcool. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on n'est pas attiré par l'alcool ou qu'on ne veut pas boire, on est perçu comme un étranger, quoi.
Oui, ou quand on n'est pas perçu comme un ringard, même.
Voilà, parce que dans notre société, aujourd'hui, l'alcool est important, est importante, quoi.
Oui.
Mais moi, depuis ce jour-là, depuis le livre, j'osais dire aux gens, voilà, je ne veux plus boire, enfin, je ne veux pas boire, et je n'aime pas l'alcool. Et du coup, mais aujourd'hui, du coup, je fais abstraction de tout ça, et donc, j'ai plus cette honte et être différent des autres. Et après, je sais qu'avec ce livre, ça va pouvoir aider d'autres personnes qui ont vécu comme moi. Et voilà, j'espère donner cette prise de conscience et ce déclic aux personnes qui sont dépendantes à l'alcool, quoi. Et j'ai été du coup aussi suivi par un thérapeute qui m'a aidé à retrouver mon estime de soi.
Oui.
Et depuis 2 mois, j'ai intégré une association qui s'appelle Alcool Assistance.
Oui.
En fait, c'est un groupe de parole qui est là pour encourager les personnes, pour aider dans leur abstinence, écouter, les encourager dans leurs soins, échanger en fait, et aussi aider l'entourage. Parce que pour moi, c'est une maladie qui est beaucoup basée sur l'échange et l'écoute, quoi. Et cette association, ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai besoin d'aider, sensibiliser sur ça, et j'ai pas envie que d'autres personnes vivent ce que j'ai vécu ou que... Voilà, enfin... Parce que l'alcool, c'est très délicat, quoi. Et du coup, j'ai pu m'informer sur cette maladie avec une personne, d'ailleurs, qui est abstinente et qui a aussi écrit un livre, Un détour par l'enfer, et aussi avec un psychologue, un diétologue, qui est le professeur Laurent Carella,
oui.
Où j'ai appris avec eux beaucoup sur cette maladie, en regardant des émissions, des reportages. Je trouve en fait tellement admiratif les courageux, les personnes qui s'en sortent contre cette dépendance parce que j'aurais aimé que mon père réagisse comme eux. Mais voilà, tant qu'on n'a pas ce déclic et cette prise de conscience, c'est très compliqué, quoi. Parce que si on dit à quelqu'un qu'il a un problème avec l'alcool et que cette personne-là ne l'assume pas, malheureusement, ça va être compliqué pour s'en sortir. C'est pour parler aussi, par exemple, pour moi, l'alcool, il faut sensibiliser, en fait, dès qu'on est jeune. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup, quand il y a des soirées, il y a tout de suite le mot alcool qui vient en premier. Donc, des fois, le but des soirées, c'est de boire le plus possible
oui.
Pour être ivre le plus rapidement possible.
Mmh. Et ça, vous savez que c'est malheureusement une mode qui touche pratiquement tous les jeunes d'Europe. Hein, et
oui, mais je pense que plus on est jeune, à partir de après ado, il faut sensibiliser beaucoup sur les dangers
bien sûr,
les dégâts de l'alcool.
Vous avez raison, complètement. On va marquer une nouvelle pause, si vous voulez bien, Mathieu,
oui.
Et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
D'accord.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h14 sur Europe 1 et nous sommes toujours avec Mathieu. Mathieu, vous évoquez l'alcool chez les jeunes, mais avec ce que vous avez vécu avec votre père, vous avez été en contact vraiment très proche de l'alcool. C'est pour ça que vous avez pu voir les dégâts que cela peut occasionner. Alors que tous ces jeunes dont vous parlez, finalement, il y a cette naïveté, cette insouciance qui quand on est en soirée, eh bien, oui. ces jeunes, ils ne pensent pas que ces consommations d'alcool peuvent se terminer tragiquement, comme tous les week-ends,
oui, voilà,
hein, pratiquement,
oui.
il y en
oui.
a.
Oui, et puis cette consommation d'alcool aussi excessive et quotidienne peut provoquer aussi cette maladie, parce que du coup, notre cerveau, en fait, il est programmé à boire. Et du coup, à un moment donné, on va boire et on va se mettre dans une bulle et c'est très difficile à s'en sortir, quoi. Oui.
Mais est-ce que votre livre donc est destiné à plutôt vers un public jeune? Il est destiné aux jeunes?
C'est plus tout public. Oui, tout le monde peut. Oui, voilà, oui. Tout public.
D'accord.
Oui.
Bon, très bien. Bah, écoutez. Vous, on le trouve où ce livre?
Il est en ligne sur Internet, parce que
D'accord.
c'est en auto-édition.
Oui. D'accord, ok.
Voilà.
Donc
oui.
on peut le trouver facilement sur Internet.
Oui, voilà. Et le livre, ça s'appelle Une enfance compliquée, hyperalcoolique.
D'accord, très bien.
Voilà.
Mais merci beaucoup, Mathieu, pour votre appel sur l'antenne d'Europe 1. Vous ne voyez pas quoi que ce soit à rajouter?
Si, je voulais juste passer, remercier ma maman qui m'a éduqué. En partie seul aussi, quoi. Du coup, ça n'a pas été non plus toujours difficile. Voilà.
Est-ce que vous connaissez le nom de cette association qui s'appelle Al-Anon?
Al-Anon, oui. Al-Anon, j'en ai entendu déjà parler.
D'accord. Oui. C'est A-A-L-O-N.
Oui, voilà. Oui.
Et c'est une association qui accompagne les proches de personnes oui. qui ont des problèmes avec l'alcool. Je crois que vous êtes engagé, vous, hein, dans...
Oui, à Alcool Assistance, oui,
D'accord.
depuis 2 mois. Ouais.
Et cette association Alcool Assistance, elle œuvre envers les jeunes?
C'est vers tout public, en fait. C'est toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie.
Oui.
Ou alors aussi pour l'entourage. Voilà, qui...
Et qu'est-ce qu'elle fait, cette association? Vous recevez? Il y a des groupes de parole?
Oui, c'est des groupes de parole. Il y a aussi des forums, des préventions. Voilà, oui, c'est...
D'accord, très
beaucoup
bien.
Beaucoup basé sur l'écoute et sur l'échange. Quoi. De toute façon, c'est ce qu'il faut pour cette maladie. Mais...
Eh bien, super. Bravo, Mathieu. Et puis, écoutez, bon courage. Et puis, j'espère que le livre va bien marcher.
Oui.
En tout cas, je vous félicite pour ce livre déjà et cette démarche. Portez-vous bien.
Merci beaucoup.
Au revoir,
merci
Mathieu.
Merci à vous aussi. Au revoir.